Aujourd'hui, c'est la fête de Saint Cyrille de Jérusalem. Ça peut vous faire peur. N'ayez pas peur. C'est un évêque solide, un évêque de grand courage et un docteur de l'Église. C'est très intéressant de prendre connaissance de l'enseignement de cet homme qui était vraiment, sur certains points, très moderne. Au microphone, Raymond Beaugrand-Champagne. Saint Cyrille de Jérusalem est né, en fait, à Jérusalem ou dans les environs. Et sur l'emplacement de la ville de Jérusalem, qui était une ville juive, comme chacun le sait, et qui est tombée en l'an 70 devant les armées romaines qui l'ont détruite, eh bien, sur cet emplacement, bien les Romains ont construit une nouvelle ville qu'ils ont appelée Elia Capitolina. Elia, ça s'écrit A-E-L-I-A. Et le temple de Jérusalem, qui a été détruit, comme chacun sait, et certains Juifs songent à le reconstruire, mais ce serait très difficile de nos jours, puisque sur l'emplacement du temple, il y a une mosquée que les musulmans jugent extrêmement importante. Eh bien, le temple avait cédé la place au Capitole, qui était consacré à trois divinités de Rome. Les trois divinités de Rome, c'était, dans la mythologie des Romains, leur religion, c'était Jupiter, Junon et Minerve. Et on voit encore des traces de ça. Et sur l'emplacement où les chrétiens localisaient là, la crucifixion puis l'ensevelissement de Jésus, bien, ils ont élevé, imaginé un temple à Vénus, les Romains. Alors, en dépit de ces transformations, les chrétiens, nos ancêtres dans la foi à Jérusalem, continuaient à vivre, à se réunir à l'église, où Jésus avait célébré la veille de sa mort, la dernière scène, la première messe, quoi. Et ils faisaient ça groupés autour de leurs évêques. Puis ils ont eu comme évêque Narcisse, Alexandre, leur successeur, et Eusèbe, l'évêque de Césarée, dont le siège situé entre Jaffa et Haïfa n'était pas loin des lieux. Puis il a consacré, lui, une série d'ouvrages à la géographie biblique. C'est très intéressant à lire, je m'y réfère assez souvent. Et il nous raconte également les épreuves de la communauté chrétienne de Jérusalem puis des environs pendant la persécution de Dioclétien. Il raconte ça dans Les Martyrs de Palestine. C'est assez bouleversant de voir combien notre Église et notre foi est fondée sur le sang des martyrs à Jérusalem et dans les environs. Mais les choses ont changé avec l'édit de Milan. Hein. Milan, c'était la capitale de l'Empire d'Occident au IVe siècle, à cette époque-là, en 313, l'édit de Milan. Il y a eu une grande pacification, comme chacun sait. Et c'est cette année-là qu'est né, vraisemblablement, à Jérusalem ou dans les environs de la ville, Saint-Cyrille, Cyrille de Jérusalem, qui va devenir l'évêque. Il va illustrer vraiment le siège de l'évêque de Jérusalem. Hein. Il avait 12 ans au moment où s'est réuni le fameux concile de Nicée. C'est le premier concile écuménique, le premier concile qui a réuni l'ensemble des évêques de l'Église dans ce temps-là. Et ce concile avait été réuni pour condamner Arius. Je vous en ai déjà parlé d'Arius en vous parlant de saint Athanase et d'autres saints. Arius était un prêtre qui prétendait que Jésus, le fils du Père, était une créature du Père, qu'il l'avait arraché du néant. Et alors, il n'accordait la divinité qu'au Père. Et on appelle ça l'arianisme. Et le concile de Nicée a condamné cette théorie pour affirmer la Trinité, Dieu, Trine, Père, Fils et Esprit-Saint. Alors, on sait très peu de choses de la famille de Saint-Cyrille de Jérusalem, ni de son éducation. Il a dû recevoir une bonne formation scolaire, hein, puisqu'il a beaucoup prêché. Puis on a les textes de ses prédications, on appelle ça des catéchèses. Il préparait les gens au baptême et il faisait très bien ça. C'est admirable. Je vous en lirai quelques passages qui sont très intéressants. C'est un improvisateur plutôt aisé. Il a beaucoup, beaucoup d'intelligence. C'est intéressant à lire. Hein. Puis, il sait soigner son style. C'est peut-être pas un homme comme certains autres, un homme de grand génie, mais en tout cas, il avait beaucoup de talent. Dans la liturgie byzantine, il y a des textes qui le décrivent, on ne sait pas sur quelle tradition ça s'établit, mais s'ils le disent, c'est probablement vrai. On disait qu'il avait une taille moyenne, un teint pâle, de longs cheveux, et chose assez curieuse, un nez, disent-ils, un peu camard. Camard, ça veut dire un nez plat puis écrasé, là. C'est pas toujours bien beau, malheureusement. Il y avait un visage carré, sourcils qui continue en ligne droite, hein, ça indique une prise de décision. Une barbe blanche épaisse sur les joues, qui était divisée en deux au menton. Vous voyez le genre, hein. Et on dit qu'il avait... Il était en tout point semblable par son genre à un paysan, c'est ce que disent les textes de la liturgie byzantine. Je parle de la liturgie byzantine, c'est la liturgie de nos frères orthodoxes et de certains catholiques qui sont unis à nous, là, qui suivent cette liturgie-là. Il y en a à Montréal, dans des églises, on peut aller à la messe là, quand on est catholique. Et puis, Saint Cyrille de Jérusalem connaissait cette liturgie, c'est un père grec, c'est un homme de tradition grecque et donc de tradition orthodoxe. Pardon. S'il est vrai qu'il avait une certaine allure de paysan, son esprit, sa parole ont séduit les auditoires de Tarse, où il est allé en Turquie d'aujourd'hui, qui passait pour une ville lettrée puis exigeante. Son œuvre permet vraiment de camper son vrai portrait. Au temps de Constantin, l'évêque de Jérusalem, c'était Macaire. Il avait, lui, assisté justement à ce concile de Nicée. Quand Cyrille de Jérusalem avait 12 ans, là, il avait assisté au concile de Nicée. Puis il avait entrepris, avec l'autorisation de l'empereur, les premières fouilles qui ont permis de mettre à jour, vous savez, le fameux Saint-Sépulcre qui était caché, finalement, par le temple de Vénus. Et l'empereur, informé, a fait élever sur le calvaire, là, puis sur le sépulcre, une immense basilique, car c'est tout près. Et c'était précédé, ça, d'un vestibule, puis à l'arrière, il y avait une grande cour carrée, puis c'était orné de portiques, conservés dans un édifice spécial, une relique de la croix. Puis il y avait, à l'ouest, le Saint-Tombeau du Christ, qui était conservé dans une rotonde. C'était l'église de la résurrection. C'est ce qu'on appelle en grec l'anastasis. Et c'est là que Saint Cyrille a prononcé ses fameuses catéchèses qui le rendent toujours vivant. Ce sont des catéchèses qui sont numérotées, 1, 2, 3, 4, 5, il y en a plusieurs. Et puis, il y en a qui sont très très belles là-dedans. Et alors donc, la ville d'Elia Capitolina, dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui avait succédé à Jérusalem, est redevenue Jérusalem. Alors, l'évêque de Jérusalem, Macaire, est remplacé par Maxime. C'était un vieux lutteur, ça, que l'empereur Maximin d'Aïa avait envoyé aux mines, imaginez. Un évêque envoyé aux mines, c'est-à-dire dans les endroits les pires. On voit ça dans certains films, parfois, qui nous parlent de cette époque, hein. Et ce pauvre évêque était rentré borgne et boiteux. Il y avait une vieille rivalité qui opposait le siège de Jérusalem à celui de Césarée, qui était occupé par Acas, un drôle de nom, hein. Et les deux titulaires étaient rarement du même avis. Puis à la fin de sa vie, Maxime, l'évêque de Jérusalem, le nouvel évêque, était totalement dévoué à saint Athanase, qui, lui, croyait en la Trinité. Il lui a fait fête quand il est revenu d'Occident, où il avait été exilé. C'était pas du goût d'Acas, qui était, lui, le métropolitain, qui était l'archevêque, si vous voulez. Alors, parmi le clergé de la ville, il y a un prêtre qui se distinguait, c'était justement Cyrille. Il jouissait d'une grande réputation d'éloquence. C'était un simple prêtre, il avait remplacé l'évêque au cours du carême pour préparer les catéchumènes au baptême. Tous ceux qui se préparaient au baptême, c'est lui qui les avait préparés. Et on a des catéchèses comme ça qu'il a faites pour préparer des nouveaux croyants. Et ces catéchèses nous ont été conservées, hein. Ça a crédité son renom. Et puis vers 350... À la mort de l'évêque Maxime de Jérusalem, c'est Saint Cyrille, qui était régulièrement installé sur le siège de Jérusalem, avec le consentement là, du métropolitain qui, avec lequel il s'entendait pas tellement, là, à Casse. L'année suivante, en 351, le 7 mai, on raconte, et c'est authentifié par bien des documents, qu'un phénomène lumineux qui est apparu sur l'horizon de Jérusalem, et chacun y a reconnu une croix. Il y a des phénomènes un peu dans ce genre-là, comme au début de la guerre mondiale en 39. Je vous parlerai peut-être un peu de ça. C'est assez curieux, ces événements-là. Qu'est-ce qu'on peut croire de tout ça? Enfin, je me souviens des lueurs, moi, dans le ciel, je les ai vues. Et Cyrille de Jérusalem, donc, s'empresse de raconter l'événement là, de ce phénomène lumineux à l'empereur. Et le prodige semblait donc de bon augure pour le nouvel évêque. Là, les conflits ont commencé rapidement entre Saint-Cyrille et son métropolitain Acas de Césarée. Apparemment sur une question de préséance, mais c'était au fond déterminé par le concile de Nicée qui avait défini la Trinité. C'était terrible entre les deux. Et d'après l'historien Sozomène, Cyrille, même s'il était un saint, c'était pas un suffragant, c'est-à-dire un évêque commode pour son archevêque. Il arguait de l'importance du siège de Jérusalem qui avait été occupé au début par Saint Jacques, donc un siège tenu par les apôtres, un siège d'évêque très important, et il prétendait que ça lui faisait échapper à l'autorité d'Acas, qui lui était évêque à Césarée, où il n'y a pas eu d'apôtre tout début. Et puis, Acas, lui, reprochait à Cyrille d'avoir vendu des objets sacrés pour aider les pauvres, pour satisfaire aux besoins des fidèles en temps de famine, et que des objets sacrés, on ne pouvait pas les vendre. On avait vu, disait-on, au théâtre, une actrice qui s'était revêtue d'une étoffe qui avait été offerte par l'empereur Constantin, Macaire, l'évêque précédent. Et puis, le reproche avait tout du procès de tendance, hein, parce qu'on prétendait que Saint-Cyrille avait dilapidé les trésors de l'Église pour prétendument secourir les pauvres, on l'accusait. Et en réalité, Acas, lui, pactisait avec les Ariens, ceux qui niaient la divinité de Jésus. Et puis, il était très bien à la cour de l'empereur, il en a profité pour réunir un synode, puis déposer Cyrille, et Saint-Cyrille n'était pas homme à se laisser faire, il a protesté contre ce qu'il estimait une décision injuste, il a fait appel. Et là, le métropolite Acas est venu en personne avec une escouade militaire. Ils ont chassé l'évêque Saint-Cyrille de son siège avec les soldats, là, puis ils ont installé un évêque arien qui niait donc la divinité de Jésus. C'est arrivé en 357 et Saint-Cyrille a été exilé au même moment que son collègue Saint-Hilaire de Poitiers, dont je vous ai parlé le 13 janvier. Et nous verrons la suite de cet homme martyr qui s'est toujours tenu debout. Et alors je reviens à Saint-Cyrille de Jérusalem, qui se réfugie d'abord à Antioche en Turquie, puis à Tarse. Et là, à Tarse, l'évêque Sylvain, qui est plutôt arianisant, qui est plutôt porté à nier la divinité de Jésus, lui fait bon accueil quand même, puis lui permet d'exercer ses fonctions d'évêque, puis de prêcher. Ses prédications sont fort appréciées. Là, il y a un concile qui réhabilite Cyrille. Bon, heureusement pour lui, mais quelques mois plus tard, il y en a un autre concile à Constantinople qui est présidé par cet fameux Acas qui, en personne, le dépose de nouveau. Il chasse Cyrille encore et Cyrille profite des mesures prises par l'empereur Julien pour rentrer, comme saint Athanase, dans sa ville épiscopale, donc de Jérusalem, en 362. Mais il n'était pas au bout de ses peines. Il est expulsé de nouveau par l'empereur Valens, une troisième fois, imaginez. Ce qui prouve suffisamment qu'il était considéré comme un adversaire vraiment déclaré de l'arianisme, mais donc un défenseur de notre Seigneur et de la Trinité. Il n'a retrouvé son siège qu'en 378 et son exil avait duré 11 ans. Le concile de Constantinople de 381, auquel il participe, enfin le reconnaît solennellement comme évêque légitime. Il avait enduré persécution pour la cause de la foi. Quel courage! Ça nous fait penser à Mgr Romero, dont je vous parlerai, Oscar Romero, archevêque de San Salvador, hein, qui est assassiné il y a 17 ans, le 24 mars. Je vous en parlerai. C'est un peu comme hier, Saint Patrick, cet évêque aussi, qui a eu tant de misère. À son retour, Saint-Cyrille, il doit bien réparer les désastres que toutes les disputes, puis les divisions, puis les déchirements avaient accumulés. Car il n'y a rien de pire que ces disputes dans l'Église. Et le rapport que Saint-Grégoire de Nice nous a laissé là, sur la Jérusalem de cette époque, c'est particulièrement sombre. Savez-vous, Saint-Grégoire de Nice nous décrit Jérusalem, on dirait qu'il parle de Montréal presque. Il n'y a maintenant, c'est en 378 qu'il écrit ça, il n'y a maintenant aucune sorte d'impureté qui n'y paraisse avec impudence, perversité, adultère, vol, idolâtrie, empoisonnement, calomnie, meurtre, bref, tous les genres de désordres y sont installés à demeure. Ben, c'est peut-être pas tout à fait comme ça à Montréal, mais ça commence à ressembler un petit peu, je pense. Et là, la ville de Jérusalem était divisée donc entre Arien puis anti-Arien. Et puis Saint-Cyrille, lui-même était discuté, évidemment, dans tout ça, lui qui était l'évêque. Et des années plus tard, Saint-Jérôme va même colporter des cancans qui circulaient sur le compte de Saint-Cyrille parmi les colonies monastiques. Là, il y avait beaucoup de nouveaux monastères qui se sont installés. Et puis, on lui reprochait à Saint-Cyrille ses accointances avec les semi-ariens, là, les gens qui balançaient entre l'un et l'autre des doctrines, alors que le concile de Constantinople, qui n'était pas suspect de négation de la Trinité, le concile de Constantinople affirme du très vénérable et très pieux Cyrille, c'est ce qui est écrit, qu'il avait... Ils écrivent ça, beaucoup lutter contre les Ariens. En tout cas, la vérité était sans doute que Saint-Cyrille était un esprit modéré et modérateur, tout comme Saint-Hilaire, puis que son amour de ce qui était orthodoxe, la vraie foi, ne lui avait pas fait oublier, comme à certains ultras, les lois de la charité, puis le souci de l'unité. Ceux qui hurlent le plus fort là, dans l'Église ne sont pas toujours ceux qui, dans l'épreuve, ont été les plus purs, ni les plus courageux. Et Saint-Cyrille passe les dernières années de sa vie à rétablir l'unité puis la paix. Il veut cicatriser les blessures des années douloureuses. Et son souci permanent, c'est quoi? C'est l'unité de la foi, l'unité de la foi. Il aimait redire ceci, « L'erreur a des formes multiples, mais la vérité n'a qu'un seul visage. » L'erreur a des formes multiples. L'erreur, ça se disperse en toutes sortes d'églises, toutes sortes de mouvements, toutes sortes d'idées, toutes sortes de séparations. Mais la vérité, elle n'a qu'un seul visage. Un seul visage. Il meurt donc, Saint-Cyrille de Jérusalem, le 18 mars 386. Ça fait donc, 1611 ans, si je ne me trompe. Et sur 38 ans d'épiscopat, cet évêque de Jérusalem en avait passé 16 en exil. Et Léon XIII l'a proclamé docteur de l'Église universelle en 1893. Donc cet évêque de Jérusalem s'est vu intimement mêlé à la lutte anti-arienne. Les circonstances, au plus que le tempérament, ont fait de lui un lutteur. Mais c'était un lutteur quand même assez paisible, malgré tout. Il semble pas avoir eu une nature si belliqueuse que ça, mais... Sa lutte avec l'archevêque ou le métropolite à Castres le pousse parfois un peu à la violence. Ça le rend un peu aigri. Pourtant, c'est un homme pacifique. La défense de la foi, plus que les questions de préscience, ont inspiré son caractère parfois, ses paroles un peu dures parfois. Son caractère apparaît plus ferme que souple, c'est vrai, mais n'est plus peut-être, comme dit le père Amann, plus rugueux que tendre. Mais cette virilité se manifeste tout au long de sa prédication et ça remplit sa prédication. Dans sa prédication, il y a comme un grand vent du large. Et c'était un catéchiste au fond. Il a tellement fait de catéchèse. C'est comme catéchiste qui nous est le plus connu. Par 24 catéchèses qui exposent les grandes vérités de la foi. Puis la doctrine des trois sacrements de l'initiation chrétienne, c'est-à-dire le baptême, la confirmation, puis l'Eucharistie. C'est très beau ce qu'il dit sur l'Eucharistie. Et on tient là, en Saint-Cyrille de Jérusalem, un modèle de ce que pouvait être l'enseignement religieux au IVe siècle. Et les instructions de Saint-Cyrille nous renseignent également sur la liturgie de Jérusalem à la même époque, qui est au fond très près de la liturgie orthodoxe. la liturgie dite byzantine. Les 24 catéchèses ont été prononcées pour la plupart dans la basilique du Saint-Sépulcre, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Quelques-unes dans la rotonde même de l'Anastasis, de la Résurrection. Et l'authenticité des cinq dernières, qui sont appelées mystagogiques, parce qu'elles sont comme une introduction au mystère du baptême, de la confirmation de l'Eucharistie, c'était un peu mis en doute, mais les historiens s'entendent maintenant pour reconnaître l'authenticité. C'est extraordinaire d'avoir des textes après tant de siècles, 1600 ans. Les instructions commençaient le premier dimanche de carême, ça se poursuivait tous les jours pendant le carême, là, parce qu'il y avait le baptême dans la nuit de Pâques. On y expliquait donc l'Écriture sainte, l'histoire du salut dans ses principales articulations, puis évidemment le symbole des apôtres. Alors dans la nuit pascale, les catéchumènes recevaient le baptême, la confirmation, puis l'Eucharistie, les trois sacrements l'un à la suite de l'autre. Et au cours de la semaine pascale, leur instruction s'achevait par l'explication des rites de l'initiation chrétienne. Alors on trouve dans le bréviaire aujourd'hui, dans la liturgie des heures, un texte de Saint Cyrille. C'est très beau quand on pense que ça a été écrit dans ce temps-là. Ça commence comme ça. « Cieux, réjouissez-vous et que la terre exulte. » C'est une citation de la Bible. Il continue « À cause de ceux qui vont être aspergés, purifiés par l'hysope mystique. » L'hysope, c'est une branche d'arbre avec laquelle on lance de l'eau bénite, là. Grâce à celui qui, dans sa passion, Jésus, a reçu à boire au moyen de l'hysope et d'un roseau. Vous savez, en croix, hein, on lui a présenté du vinaigre. Que les puissances du ciel se réjouissent, les âmes qui vont s'unir à l'époux mystique, qu'elles se préparent. Mais bon, il y a déjà le sens de l'époux mystique, Jésus qui est l'époux de son Église. C'est ce dont je vous ai parlé l'autre jour en vous parlant d'un chartreux. Jean de Lansperge, j'ai fait cette émission-là mercredi dernier, et les gens ont beaucoup aimé ça parce que toute sa spiritualité est établie sur ce rapport entre l'époux et l'épouse, l'âme. Hein. Alors Saint Cyrille consacre ses premières prédications à la conversion. Il s'agit d'abord de faire comprendre aux candidats au baptême le changement de vie puis de mœurs, le bouleversement que représente leur option chrétienne. Quand on choisit d'être chrétien, il y a un bouleversement qui se fait. Et quand on est déjà chrétien depuis longtemps, puis qu'on s'aperçoit que notre vie est à peu près nulle, et qu'on retourne à son baptême, puis qu'on veut changer de vie puis de mœurs, ça fait un grand bouleversement et une grande joie. Et comme dans la Didaché, qui est le premier catéchisme chrétien, l'accent est mis sur le caractère moral, hein, puis existentiel de la conversion. Et les 14 catéchèses suivantes commentent le symbole de la foi, c'est trinitaire. Hein. Et Cyrille ne se contente pas d'énoncer les affirmations théologiques au sujet du Père, du Fils et de l'Esprit-Saint. Il montre, de façon absolument admirable, le prolongement concret de cette doctrine dans la vie du chrétien. Et je vous expliquerai tout à l'heure comment le Père nous introduit dans le mystère de Dieu et dans celui qui fait de nous ses fils et ses filles, et que le Christ est notre Sauveur sous des formes variées, selon les besoins de chacun. Il est tout à tous, tout en restant lui-même ce qu'il est. Et je vous parlerai tout à l'heure de l'Esprit-Saint. Et soyons sérieux, nous étions au cœur de la Trinité, comme il le parle, comme il l'explique. Et il dit, à un moment donné, c'est très beau ce texte, c'est dans la 16e catéchèse, « L'Esprit nous introduit dans le mystère de l'Église qu'il sanctifie et qu'il défend. Il transforme la vie du croyant. » Et il ajoute, c'est très particulier, je vous rappelle, c'est écrit il y a 1600 ans. Imaginez quelqu'un qui vit dans l'obscurité. Si d'aventure il voit soudain le soleil, son regard est illuminé, et ce qu'il n'apercevait pas, il l'aperçoit clairement. Il en est de même pour celui qui a été jugé digne de recevoir le Saint-Esprit. Il a l'âme illuminée. Il voit au-dessus de l'homme des choses jusque-là ignorées. Mais c'est vrai. L'emprise de l'Esprit-Saint sur l'âme, c'est quelque chose de fantastique. La catéchèse des cinq dernières l'instruction développe la doctrine des sacrements de l'initiation chrétienne, explique les rites, qui sont une leçon de choses pour découvrir leur signification. Il explique que l'eau exprime la puissance de destruction puis de vie aussi. Et saint Cyril rattache chaque sacrement aux événements puis aux figures de l'Ancien Testament, ce qui était le but de toute catéchèse au IVe siècle. C'était comme ça qu'on prêchait à l'époque. Le style de saint Cyril, c'est clair, c'est direct, hein? Une certaine bonhomie, une familiarité de ton. C'est parce que c'est une catéchèse à la fois profonde mais élémentaire, c'est pour des futurs baptisés, de nouveaux chrétiens. Et parfois, le ton s'élève, le style est plus soigné, et Cyril fait preuve d'un art oratoire exercé. Il aurait donc dû recevoir probablement une bonne éducation dans sa jeunesse. D'ordinaire, son ambition se limite à faire comprendre les vérités de la foi à des gens, disons, ordinaires, quoi. Il recourt à l'image, c'est pour ça qu'il recourt à l'image, pas à la comparaison. Il dit à un moment donné, « N'attends pas d'être aveugle pour recourir au médecin. » En d'autres termes, n'attendez donc pas d'être près du suicide, du découragement ou d'une nuit abominable avant de recourir au médecin qui est Jésus-Christ. Et que sont ces prêtres, les évêques aussi, qui sont, au nom de Jésus-Christ, des médecins de nos âmes. Et d'ailleurs, il ajoute que votre âme soit forgée. Forgée, hein? Vous l'avez déjà vu, des forgerons. Que votre âme soit forgée. Que la dureté de l'incroyance soit battue au marteau. Que tombent les scories et que demeure ce qui est pur. Que tombe la rouille et que reste l'airain, hein? Le fer pur, quoi. Ailleurs, il rapproche la fête de Pâques de la naissance du printemps. Pour expliquer aux candidats au baptême la nouvelle naissance. Il dit, c'est en cette saison que l'homme fut créé, qu'il désobéit et fut chassé du paradis. Et dans la même saison aussi, il a trouvé la foi, et par l'obéissance, il est entré au paradis. Le salut s'est donc réalisé à la même saison que la chute, quand parurent les fleurs et que vint le moment de tailler la vigne. C'est un peu de poésie, c'est du style ancien. L'évêque de Jérusalem, il sait ce que c'est qu'un homme, un être humain. Et il ne s'étonne pas de ses limites puis de ses faiblesses. Il sait que les motifs de conversion sont parfois bien imparfaits. Il y en a qui viennent demander le baptême pour faire plaisir à leur femme ou à un ami. Mais peu importe, hein, il l'explique, il dit, et si saint Cyril est rigoureux pour défendre l'orthodoxie, il est compréhensif pour l'être humain. Il dit à un moment donné, « Je t'accepte, toi qui es venu pour un motif sans valeur. Mais n'oublie pas, tu es destiné au salut. Et j'en ai bon espoir. Peut-être ne savais-tu pas où tu venais et quel filet te prendrait. Tu te trouves dans les filets de l'Église. Laisse-toi prendre, vivant. Ne cherche pas à t'enfuir. C'est Jésus, Jésus qui te prend à l'hameçon, non pour ta mort, mais pour te donner la vie. » Que c'est beau, hein? Pour te donner la vie au-delà de la mort. Hein? Il ajoute, Jésus te fait mourir et ressusciter. En effet, tu as entendu l'apôtre dire, mort au péché, mais vivant pour la justice. Meurs donc à tes péchés et vis pour la justice. Vis dès aujourd'hui. Ah, c'est un enseignement vigoureux, on le voit, hein, c'est concret, concret. C'est toujours proche de l'Écriture, qu'il cite de source, hein, de source. Il est vraiment phénoménal. Tiens, je vous lis, j'ai trop le goût de vous en lire. C'est super. Dans la liturgie byzantine, ou orthodoxe, ou orientale, on dit à un moment donné, « Au saint les choses saintes ». C'est avant la communion, ça. Il ajoute, « Les choses saintes, ce sont les offrandes placées sur l'autel, qui ont reçu l'influx de l'Esprit-Saint, et vous aussi, vous êtes saints. Ayant été jugés dignes de recevoir l'Esprit-Saint, les choses saintes conviennent donc aux saints. » Vous dites alors, et c'est dans la liturgie, « Un seul saint, un seul Seigneur, Jésus-Christ. » Alors, saint Cyril ajoute, « Car il n'y a vraiment qu'un saint qui soit par nature. Si nous sommes saints, nous aussi, ce n'est pas par nature, mais par la participation, l'exercice et la prière. Vous entendez alors la voix du chantre qui, sur une divine mélodie, vous invite à prendre part au saint mystère et qui vous dit « Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur ». Alors, il explique de façon très amusante, il dit « Ne vous en remettez pas à votre palais corporel, à votre bouche quoi, mais à votre foi inébranlable pour en juger. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Car quand vous goûtez, ce n'est pas le pain et le vin qu'on vous invite à goûter, mais la représentation du corps et du sang du Christ. » Et il ajoute, écoutez bien, avançant alors, approche-toi, sans allonger la paume de la main, sans écarter les doigts, mais ayant placé la main gauche sous la droite, comme un trône pour celle qui va recevoir le roi, reçois dans le creux de la main le corps du Christ en disant, Amen. Et il ajoute quelque chose de très surprenant. Sanctifie tes yeux avec précaution au contact de ce corps sacré, puis consomme-le en prenant bien garde de n'en rien laisser perdre ce que tu pourrais en perdre. Sois sûr que c'est comme si tu faisais une perte sur tes propres membres. Dis-moi en effet, si on t'avait donné des paillettes d'or, ne les serrais-tu pas avec toutes les précautions possibles, en veillant à n'en laisser rien perdre et à ne pas subir de dommages? Ne veilleras-tu pas alors, avec bien plus de précautions, à ne pas laisser tomber une miette de ce qui vaut bien plus que l'or et les pierres précieuses? C'est comme ça qu'il enseignait aux gens à communier. La catéchèse de Saint-Cyril présente un bel équilibre. Il ne tombe pas dans des exagérations si fréquentes à l'époque, comme au début de ce siècle et au siècle dernier, là, contre presque le mariage, contre la chair. Ce sont des choses, ça, qui dépassent certaines homélies de Saint-Jean Chrysostome. Hein. Il ne s'attaque pas au corps. Il préfère y voir dans le corps la merveille de la création de Dieu. Et tout cet enseignement de Saint-Cyril respire un optimisme de bon aloi. Saint-Cyril de Jérusalem n'est pas seulement un fin observateur bien intelligent, profond. Son exposé s'élève souvent jusqu'à la poésie, lorsqu'il chante les fleurs puis le printemps. Et Saint-Cyril est profondément nourri de la Bible, des Saintes Écritures, qu'il a longuement médité pendant les veilles de sa solitude volontaire, à laquelle d'ailleurs il fait allusion, hein. La citation biblique affleure comme naturellement dans ses catéchèses. Il dit à un moment donné, dans sa quatrième catéchèse, « Que faut-il donc faire? Quels sont les fruits de la conversion? » Et là, il cite la Bible, « Que celui qui a deux vêtements en donne un à celui qui n'en a pas. » C'est bien dommage qu'on n'ait rien conservé de la prédication de Saint-Cyril après le retour définitif à Jérusalem. Les alliés avaient dû mûrir ce grand catéchète. Il avait eu l'occasion de proclamer la foi qu'il exposait aux catéchumènes et de souffrir persécution pour elle. Sa foi a sans doute été affermie, son esprit s'est assoupli. L'expérience y a appris, on imagine que la vérité, sans la charité, était borgne. Une vérité qui n'a pas de charité, une vérité cassante. Une vérité blessante pour ceux qui ne partagent pas la même foi. C'est une vérité borgne, comme il dit. Alors, pour transmettre sa foi, Cyril a su si bien faire sa catéchèse, que sa catéchèse garde aujourd'hui toute sa valeur. Elle demeure un modèle pour qui veut prendre au sérieux tout le renouvellement de notre liturgie aujourd'hui. On peut y puiser la doctrine à sa source, jusqu'à faire de la vie chrétienne une conversion continue. On aurait grand profit à la relire, à la méditer, à l'occasion de notre synode. Je vous lis un petit passage de sa catéchèse, la cinquième catéchèse. Il parle toujours de l'Eucharistie. Il dit « Après quoi, nous disons la prière que le Seigneur a apprise à ses disciples. Nous appelons avec un cœur pur Dieu notre Père. Et nous disons, Notre Père qui est dans les cieux. Écoutez bien ce qu'il dit, c'est beau. Il est incommensurable l'amour de Dieu pour les hommes. Il accorde à ceux qui l'avaient quitté et s'étaient précipités dans les pires détresses le pardon total de toutes leurs forfaitures, de tous leurs péchés, quoi. Une part si grande à la grâce qu'il leur permet de lui dire « Père, Père, notre Père qui est dans les cieux ». Il explique ce que ça veut dire « dans les cieux ». Il dit « les cieux » signifie aussi « ceux qui portent en eux l'image céleste, chez qui Dieu réside ou habite, parce qu'il a fixé en eux sa demeure. Que ton nom soit sanctifié. » Voici les explications de Saint Cyril de Jérusalem. Le nom de Dieu est saint de sa nature, que nous le reconnaissions ou non. Mais nos péchés l'ont profané ainsi qu'il est écrit à cause, c'est dans Isaïe, chapitre 52, ça, à cause de vous, mon nom est outragé sans cesse parmi les nations. Et il explique de façon magnifique ce que ça veut dire que ton nom soit sanctifié. Il ajoute, nous demandons donc que son nom soit sanctifié en nous. Non pas que son nom devienne saint comme s'il ne l'avait pas toujours été, mais que son nom soit sanctifié en nous du fait que nous nous sanctifions et que nous vivons comme les saints de Dieu. C'est bien, hein? Rappelez-vous ça, que ton nom soit sanctifié, ça veut dire qu'il soit sanctifié en nous, que nous le sanctifions, quoi. Parce que nous allons vivre comme des saints en Dieu, les saints de Dieu. Que ton règne arrive, il explique ça. Seul un cœur pur peut dire avec assurance que ton règne arrive. Il faut avoir été à l'école de Saint Paul pour dire que le péché ne règne donc plus dans votre corps mortel. Hein, c'est dans l'Épître aux Romains, chapitre 6. Et Saint Cyril ajoute, celui qui se garde pur dans ses actions, dans ses pensées et dans ses paroles, peut dire à Dieu, que ton règne arrive. Que ta volonté soit faite au ciel comme sur la terre. Voici les explications. Les saints anges de Dieu accomplissent la volonté divine. David dit en effet dans les psaumes, bénissez Dieu, vous, ses anges, qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres. C'est le psaume 102. Et Saint Cyril ajoute, quand tu pries de la sorte, tu dis en substance, comme les anges du ciel accomplissent ta volonté, Seigneur, qu'il en soit de même sur terre. Quand moi ta volonté se fasse, quand moi ta volonté se fasse. C'est ça que ça veut dire, que ta volonté soit faite au ciel comme sur la terre. C'est une prière pour qu'en chacun de nous, sa volonté soit faite. Si elle était faite en nous, elle serait faite sur toute la terre, parce que nous serions des saints, et nous serions rayonnants, et nous transmetterions notre foi, et les gens se convertiraient dans le sens qu'ils se libéreraient enfin de leur nuit obscure, pour entrer dans la grande lumière de la joie chrétienne, la vraie joie. Je continue donc avec le Pater, tel qu'expliqué il y a 1600 ans, par Saint Cyril de Jérusalem, dont c'est la fête aujourd'hui. Il est décédé en l'an 386. Donne-nous aujourd'hui le pain nécessaire à notre subsistance. Il explique, ce n'est pas le pain commun qui est nécessaire à notre subsistance, mais le pain sacré. Il doit nourrir la substance de l'âme. Ce pain-là n'est pas soumis à la digestion et à la décomposition, mais il se répand dans tout ton être, pour le bien de l'âme et du corps. Le mot « aujourd'hui » veut dire, ici, « tous les jours ». Tous les jours. Il invite, en somme, les gens à communier tous les jours. C'est surprenant, hein? Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Il dit, nous avons commis de nombreux péchés. Nous fautons en pensée, en parole, et dans nombre de nos actions qui sont répréhensibles. Et il cite là la première épître de saint Jean au début de l'épître. Si nous nous prétendons sans péché, nous nous trompons nous-mêmes. Qui est sans péché? Seul Jésus, Marie, c'est tout. Il ajoute, nous passons un contrat avec Dieu quand nous lui demandons de nous remettre nos fautes comme nous remettons à nos prochains ses dettes. C'est vrai que c'est un contrat avec Dieu. Il dit, pensons donc à ce que nous recevons et à quel prix. Ne tardons pas et ne refusons pas de pardonner aux autres. Les offenses dont nous sommes victimes sont légères, insignifiantes et sans gravité. Celles, au contraire, que nous avons commises à l'égard de Dieu sont graves. Et nous ne pouvons attendre le pardon que de la seule charité divine à notre endroit. Prends donc garde de ne pas te voir refuser le pardon de tes péchés très graves commis contre Dieu pour n'avoir pas voulu pardonner d'insignifiantes peccadilles. Il a un langage qui est très près de notre siècle, c'est moderne, je trouve. Ne nous soumets pas à la tentation, Seigneur. Il explique, le Seigneur nous demande-t-il de prier afin de ne pas être tenté du tout? Il est dit cependant dans l'Écriture et dans l'Ecclésiaste, celui qui n'a pas connu l'épreuve n'a pas fait ses preuves. Et ailleurs dans la Bible, c'est dans au tout début de l'épître de saint Jacques. Je ne saurais trop vous recommander de lire l'épître de saint Jacques. C'est magnifique. Alors, il cite donc le début de l'épître de saint Jacques. « Ne voyez que joie dans les diverses épreuves qui peuvent vous survenir. » Pas facile. Je la répète, cette phrase, elle est extraordinaire. « Ne voyez que joie dans les diverses épreuves qui peuvent vous survenir. » C'est saint Jacques, le premier évêque de Jérusalem, son prédécesseur à saint Cyrille de Jérusalem, qui a écrit ça. Il le cite. Alors saint Cyrille ajoute, « Mais être induit en tentation, ne serait-ce pas synonyme dans notre texte d'être submergé par la tentation? En effet, celle-ci ressemble à un courant torrentiel qu'il est difficile de traverser. » C'est vrai que des fois, on a des tentations de découragement ou de choses. C'est comme un torrent qui s'attaque à nous. Et il ajoute, « Ceux qui ne succombent pas à la tentation sont seuls à le traverser. » Ce sont, le torrent, ce sont, pour ainsi dire, de bons nageurs qui ne sont pas emportés par le torrent. Les autres, en le passant, coulent bas. Ainsi, par exemple, Judas, il fut sollicité par la tentation de l'avarice. Il ne sut pas la traverser, pour ainsi dire, à la nage, et Judas sombra corps et âme. Pierre, saint Pierre de son côté, fut induit en la tentation de renier, mais en définitive, il n'a pas fait naufrage, mais il a fini par atteindre l'autre rive et se voir délivré de la tentation. Dans un autre texte, le cœur des saints, qui sont demeurés purs, chante, dit-il, sa reconnaissance d'avoir été sauvé de la tentation. Alors il cite le psaume 65. Tu nous as éprouvés, ô Dieu. Tu nous as épurés comme l'argent. Tu nous as menés dans le filet. Tu as mis sur nos reins une étreinte. Tu as laissé le cavalier marcher sur nos têtes. Nous sommes passés par le feu et par l'eau. Tu nous en as tirés pour nous donner la félicité, la joie, le bonheur, la liberté. Il ajoute, c'est moi qui ajoute le bonheur, la liberté. Et voici le texte de saint Cyrille encore. Considère la joie qu'ils éprouvent d'avoir fait la traversée sans péril. Et tu nous en as tirés, est-il dit, pour notre félicité. Obtenir la félicité, dit saint Cyrille, est synonyme de être délivré de la tentation. Et il termine en disant, mais délivre-nous du mauvais. Si ne nous induit pas en tentation signifiait écarter toute tentation. Jésus n'aurait pas ajouté « mais délivre-nous du mauvais ». Car c'est la vraie traduction, hein, le mauvais. Nous, on dit « délivre-nous du mal », mais paraît-il que ça devrait être du mauvais. Saint Cyril dit « le mauvais est le démon, et nous demandons d'en être délivrés ». À la fin de cette prière, tu dis « Amen ». Cet « Amen » signifie « ainsi soit-il », et par là, tu confirmes tout ce qui est contenu dans cette prière. C'est magnifique, c'est tellement beau. Oh, il y aurait tellement d'autres choses que j'aimerais vous lire. Sublime sur la préface, sur le baiser de paix. Sur le baiser de paix, il dit, ne crois pas que ce baiser soit du même genre que ceux qu'échangent communément les amis sur la place publique. Non, ce n'est pas d'un tel baiser qu'il s'agit. Il opère la fusion des âmes. Nous, on se donne la main aujourd'hui à la messe. Hein? Il opère la fusion des âmes et prétend aboutir à l'oubli total des injures. Ce baiser est le signe que les âmes n'en forment plus qu'une et qu'elles bannissent tout ressentiment. Voilà pourquoi le Christ disait, si tu présentes ton offrande à l'autel, et si là, tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis reviens et présente ton offrande. Alors, le baiser, ou aujourd'hui la poignée de main, est donc une réconciliation. Et c'est par là qu'il est saint, comme le proclamait saint Paul en disant, « Saluez-vous les uns les autres par un saint baiser. » Et saint Pierre en disant, « Dans un baiser de charité. » Ben oui, c'est dans la première épître de saint Pierre. Ces catéchèses de saint Cyril sont si belles, si grandes, qu'on reste stupéfait qu'elles aient pu être faites, comme je vous l'ai dit plusieurs fois, il y a 1600 ans. Seigneur Père, tu as permis que ton Église pénètre davantage les mystères du salut grâce à l'enseignement de saint Cyril, évêque de Jérusalem. Accorde-nous par son intercession de si bien connaître ton Fils que nous vivions plus intensément de sa vie, lui qui règne avec toi dans l'unité de l'Esprit-Saint pour les siècles des siècles. Amen.